Alors, bonjour à tous et bienvenue dans Influence ta vie, le podcast qui te veut du bien. Je vous montre comment faire avec une approche holistique du corps et de l'esprit, donc en gros notre globalité physique et mentale. On y parlera de comment aller vers une vie meilleure en passant par l'alimentation saine, le sport, mais aussi le développement personnel, vraiment le tout sans pression et surtout toujours dans la bonne humeur. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Et c'est un sujet qui est assez intéressant et auquel on ne s'attend pas forcément. Ça va être justement ce fameux rôle de l'alimentation sur le cerveau, sur les comportements, etc. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, juste petit rappel, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, c'est julie-lc.fit et sur Facebook, Julie Derien, D-E-2-R-I-E-N. Je vous ai parlé il y a quelques temps d'un reportage en fait que j'ai vu sur Arte qui s'appelait justement l'alimentation et le cerveau. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi, je vous enverrai le lien. Si jamais vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube normalement. Et en fait, j'ai appris pas mal de choses et ça a conforté d'autres choses que je connaissais déjà et qui étaient pour moi assez importantes. Et du coup, ça m'a paru évident de vous faire un podcast là-dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre alimentation a un rôle aussi énorme sur ce qu'on appelle le microbiote, qui sont en fait les bactéries qu'on a dans le système digestif et qui vont en fait, du coup, forcément jouer sur l'état de santé global. Vous avez probablement déjà entendu parler de phrases comme « ce qu'on a dans l'assiette, ça reflète ce qu'on a dans le cerveau » ou « tu es ce que tu manges », vous avez déjà probablement entendu ça. Et le fait que notre ventre, nos intestins sont notre deuxième cerveau. Donc ça c'est pas nouveau non plus, on en entend de plus en plus parler. Ce qu'il faut savoir c'est que ce fameux microbiote, donc ces bactéries qu'on a dans le système digestif, tout ça c'est composé en fait de 200 millions de neurones, ce qui est énorme. C'est pour ça qu'on appelle ça le deuxième cerveau, donc c'est vraiment quelque chose qui est à part du cerveau, hein, c'est des neurones qui sont vraiment dans l'intestin et dans notre système digestif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des neurotransmetteurs, donc les neurotransmetteurs en gros c'est la manière dont on va amener l'information entre les neurones, qui sont en fait utilisés par le cerveau, sont fabriqués dans ce fameux microbiote. Donc vous vous doutez bien que si le microbiote, donc les bactéries qu'on a dans le système digestif, hein, il y a des bonnes et des mauvaises, là c'est, on parle des bonnes bactéries qui sont dans le système digestif, si le microbiote n'est pas en bonne santé, en gros s'il n'est pas au top de sa forme, et bien forcément ça va jouer sur ces fameux neurotransmetteurs et ça va du coup forcément jouer au niveau du cerveau et de notre comportement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça joue hein, dès la naissance, pendant même la grossesse, parce qu'il y a des études qui ont été faites comme quoi le fonctionnement du cerveau du bébé dépendait de comment la mère s'était nourrie. Les études ont montré en fait que par exemple une mauvaise alimentation ou une alimentation qui est carencée, et bien souvent les enfants étaient agressifs, colériques, capricieux, il pouvait y avoir aussi de la tristesse, de l'anxiété, etc. Donc c'est vraiment hyper important que même pendant la grossesse, on ait mine de rien une bonne alimentation parce que ça va jouer même sur le comportement du bébé plus tard et même de l'enfant une fois qu'il grandit. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout et être 100% parfait. Bien évidemment, vous commencez à connaître un petit peu la manière dont je m'exprime. Mais voilà, de faire toujours au mieux parce que mine de rien, bah, ça joue quand même énormément. Voilà, on a remarqué, hein, moi j'ai été hyper étonnée et en même temps pas si étonnée que ça. En fait, ils ont fait dans ce fameux reportage, ils nous ont parlé d'études qui avaient été faites sur des détenus parce que justement, forcément, c'était plus simple à étudier parce qu'il n'y avait pas de facteurs extérieurs qui venaient jouer. Des détenus en fait qui avaient changé l'alimentation et qui étaient supplémentés en vitamines et en oméga et qui en fait ont remarqué que leur comportement était beaucoup moins violent, beaucoup moins agressif et justement ça prouve juste à quel point le mode d'alimentation joue sur le comportement et les pensées. Je pense que vous avez déjà aussi entendu parler ou peut-être si vous-même vous n'avez pas forcément une bonne alimentation, que vous êtes en surpoids, vous avez probablement un sommeil de moins bonne qualité et en fait il y a des études qui ont montré que plus l'apport en fibres est élevé et plus la durée du sommeil, donc un sommeil qui est lent et profond, va être élevé en fait. Et que, à contrario, plus l'apport en graisses saturées, donc genre les viandes, les charcuteries, les produits laitiers qui sont gras, etc. Donc plus ces graisses saturées-là sont élevées et moins la durée du sommeil, donc toujours ce sommeil profond et lent, est important. Et aussi que plus l'apport en sucre est élevé et plus il y avait de micro-réveils au cours de la nuit. Donc vous vous rendez compte à quel point l'alimentation peut jouer énormément sur le comportement, le sommeil en général, etc. Et je ne sais pas si vous savez, des études aussi ont été faites comme quoi la plupart des gens en fait qui souffrent de dépression ou d'agressivité, on a remarqué que justement ces personnes-là avaient tendance à consommer beaucoup de graisses saturées, ou du moins dans leur alimentation, il y avait beaucoup de graisses saturées, et qu'il y avait une consommation faible de fruits et de légumes. Et que voilà, ces choix alimentaires-là influençaient beaucoup la vivacité d'esprit, la mémoire, l'humeur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait aussi de manger trop gras ou trop sucré et de ne pas manger justement assez de fruits et légumes, ça peut avoir un rôle sur la mémoire. Donc normalement, en fait, quand tout va bien, quand la faim, quand voilà, pendant la faim, on a des souvenirs qui sont liés à l'alimentation. Donc quand vous avez faim, vous vous souvenez d'alimentation que vous avez déjà mangée. Et en fait, ces souvenirs-là sont inhibés quand on atteint la satiété. Donc ça veut dire que de sorte en fait à ce que les pensées sur la nourriture soient genre en gros mises de côté quand manger c'est plus une priorité absolue puisque justement on n'a plus faim. Et en fait les études ont montré que justement le fait d'avoir une alimentation qui est déséquilibrée, ça va altérer en fait ses capacités d'inhibition en fait comme je vous ai dit, hein, le fait que les pensées sur la nourriture soient mises de côté, en fait ça va altérer ça. Au niveau de la mémoire de l'hippocampe, donc dans le cerveau, qui veut dire que généralement, en fait, ça rend difficile de résister à grignoter, même si on n'a plus faim, parce que justement, au niveau des neurones, il se passe des choses qui font que on n'a plus cette sensation de satiété ou on n'a plus ce sentiment de, en gros, c'est bon, il faut plus que je mange. Donc, bien sûr, vous vous doutez bien que si ça joue sur l'inhibition au niveau des souvenirs liés à l'alimentation, ça joue aussi évidemment sur d'autres souvenirs. Et les études ont montré que justement, ces gens qui suivaient un régime alimentaire qui est riche en sucre, en gras et qui est faible en fruits et légumes, avait en fait plus de difficultés et était plus lent à apprendre, qui avait plus de difficultés à se souvenir que ceux qui avaient justement un régime qui était plus sain. Donc là encore, on voit hein, le rapport à la mauvaise alimentation, le cerveau, le comportement, tout ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une alimentation riche entraîne une inflammation en général dans le corps, parce qu'en gros, parce qu'il y a de meilleur pour le corps, donc du coup le corps va se défendre, et aussi dans le cerveau. Donc forcément, ça va jouer aussi là-dessus. Et puis, je fais juste un petit aparté, un petit exemple. J'ai une de mes clientes avec qui j'en ai discuté, et ça m'a donné envie d'aller me renseigner, qui a en fait une hernie hiatale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout type de hernie en général, même les hernies inguinales ou quoi que ce soit, c'est que en général, en fait, c'est que le tissu conjonctif est affaibli. En fait, le tissu hein, qui enveloppe, par exemple, là, dans le cas de l'estomac, est un maillage minéral, en fait, dont le calcium, entre autres. Et donc, en fait, ça fait une sorte de bulle parce que c'est abîmé, c'est affaibli, c'est aminci, entre guillemets, et ça va venir former une hernie. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la déminéralisation. La déminéralisation, c'est pas uniquement au niveau des os, hein, c'est vraiment tout ce qui est minéraux en général, et dont le tissu conjonctif, hein, donc par exemple là au niveau de l'estomac. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce capital minéral, celui qui rend les tissus sains, forts, etc., il résiste normalement à la production d'acide dans notre corps. Je vous avais parlé hein, de l'équilibre acido-basique dans un précédent podcast, parce qu'en fait les acides vont s'associer avec des minéraux pour justement former des sels qui sont neutres et qui vont être éliminés correctement. Et en fait quand cette production d'acide est anormale, donc je vous le rappelle, c'est normal d'avoir de l'acide, hein, mais quand il y en a trop et qu'on en rajoute, par exemple par du stress, une mauvaise qualité de sommeil, une mauvaise alimentation, une sédentarité, etc., en fait, ça va fragiliser ce tissu conjonctif, ce fameux maillage minéral, et donc, du coup, forcément, il faut reminéraliser. Et en fait, quand on a des reflux, à cause d'une hernie hiatale ou qu'on a des reflux en général, c'est parce que souvent, on a une production de gaz dans les intestins, et donc, qu'il y a des microbes, en fait, qui se sont installés, des mauvais microbes, donc pas assez, en fait, d'acide chlorhydrique. Et donc les microbes se développent et ça va fermenter. Et en fait, le peu d'acide qu'il y a, ça va remonter. Donc le fait d'avoir moins d'acides au niveau de ce système digestif à certains endroits, dû à l'épuisement et à cette fameuse déminéralisation, bah, du coup, ça va faire un cercle vicieux. Il n'y a pas assez de déminéralisation, donc du coup, ça va épuiser, etc., etc. Donc en fait, ce manque d'acide fait qu'on digère moins, par exemple, la cellulose qu'il y a dans les légumes. Donc l'acidité, en fait, va permettre, avec certaines enzymes, de découper les choses, etc. Donc si, en fait, il n'y a pas assez d'acide à cet endroit-là, on va, en fait, retirer on va pas, en fait, retirer, justement, toutes les substances nutritives qu'il y a dans les légumes. Donc, du coup, on va se déminéraliser, puisque ben, on va pas retirer les minéraux qu'il y a dedans. On va être dénutri, entre guillemets, et c'est un cercle vicieux, parce que on digère mal, donc on se reminéralise pas. On se reminéralise pas, donc on digère mal, etc. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'avoir forcément une alimentation qui est équilibrée, qui va permettre de faire fonctionner correctement tout ce système digestif, tout ce microbiote, etc., de sorte à ce que tout fonctionne mieux et que, en gros, tout main dans la main aille dans la bonne direction. Bien sûr, il ne faut pas non plus partir en mode « je mange sain sans plaisir », parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mange parce qu'on aime manger, hein. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de dopamine, qui est en fait l'hormone de la récompense. Et donc du coup, ça veut dire bah je mange sans plaisir, ça va provoquer des perturbations au niveau du cerveau. Et puis bah ça va provoquer probablement des comportements alimentaires qui sont déviants et donc des pulsions qui sont incontrôlables. Donc il faut aussi manger sainement mais avec plaisir, parce que sinon c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir qu'on va malheureusement provoquer des pulsions ou des choses comme ça. Faut pas non plus diaboliser tout, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le goût sucré, on l'a dès qu'on est, c'est un acte de survie hein, pour téter, et dès qu'on a en fait forcément les besoins énergétiques nécessaires. Et le pouvoir du sucre, en fait, c'est vraiment comme celui d'une drogue, et vu qu'il y en a partout, ben, en fait, du coup, ça rend les gens accros, parce qu'on a ça dès notre naissance, donc à notre insu, on peut être accro. Donc, on fera peut-être un autre podcast sur le sucre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très large, mais forcément, il faut limiter un petit peu, faut pas tout enlever non plus parce que forcément c'est indispensable à la bonne fonction de tout, hein. Le cerveau utilise beaucoup de glucose, hein. C'est son carburant principal, donc ça c'est important aussi, faut pas supprimer. Mais voilà, pour vous montrer à quel point, souvent en fait, je reviens par rapport à ma cliente Camille Nerny-Attal, en fait ça la gênait tous ses reflux, et donc du coup elle grignotait parce que ça apaisait ses douleurs, mais au final, plus on va grignoter, et souvent c'est des mauvaises choses, et plus en fait on va déminéraliser aussi tout notre système digestif, et c'est un fameux cercle vicieux. Donc forcément, si on aggrave la situation entre guillemets en ayant une mauvaise hygiène de vie, ça ne peut pas s'améliorer. Donc il y a plein de choses qu'il faut avoir dans des bonnes proportions, d'où l'importance de manger aussi des fruits et légumes et de le faire correctement, quitte à supplémenter aussi si on est justement carencé ou si on veut prendre au mieux soin de sa santé. Le cerveau, il est riche en oméga 3 aussi, qui est indispensable pour l'organisme, hein, on ne peut pas le fabriquer. Ça rend les cellules qui sont les cellules cérébrales beaucoup plus efficaces, ça rend le réseau plus efficace, et la plupart des gens en fait sont carencés en oméga 3, notamment c'est important pendant le développement, pendant la grossesse, l'adolescence, les personnes âgées, etc. Donc ça c'est important, c'est les graisses souvent que vous allez retrouver dans les poissons, dans les fruits de mer. Attention juste à la qualité pour éviter tout ce qui est mercure et plastique qu'il y a aussi dans les mers. Vous pouvez aussi vous supplémenter en oméga, hein. De bonne qualité, attention, j'insiste, c'est hyper important. Donc quels sont les aliments en fait qui sont bons pour le système nerveux? Parce que c'est bien bon, là je vous ai expliqué un peu tout le côté scientifique et pourquoi l'alimentation jouait sur le cerveau et sur nos comportements, que ce soit justement ces fameuses pulsions alimentaires, sur de l'agressivité, un manque de sommeil, de la fatigue, etc. Donc vous voyez, c'est pas juste physique, extérieur, de prendre du poids ou de perdre du poids, ça joue vraiment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc les aliments qui vont être bons pour le système nerveux, ça va être justement beaucoup de vitamines et minéraux, des antioxydants pour une bonne mémoire, hein, parce que qui sont bons pour le cerveau, qui vont piéger les radicaux libres, genre des baies, des légumes foncés, Les polyphénols qui sont contenus dans les fruits rouges aussi, les fameux oméga-3 comme je vous disais, qui donc du coup le poisson, fruits de mer, etc., attention à la qualité, les oléagineux qui vont en fait éviter une inflammation au niveau de notre cerveau, comme je vous disais, hein, quand on a une mauvaise alimentation, on va créer une inflammation au niveau de l'organisme et du cerveau. Et donc du coup tout ça qui va éviter en fait une inflammation au niveau du cerveau, qui va faciliter la régénérescence des cellules nerveuses, etc. La vitamine B, c'est aussi essentiel, ça a un impact essentiel parce que c'est elle qui permet en fait, enfin toutes les vitamines en général du groupe B, qui vont permettre de transmettre le message en fait entre le cerveau et les nerfs pour que ça puisse se faire correctement. Sinon, il peut y avoir des faiblesses cérébrales. Donc tout ce qui est B4, B6, B9 qu'on peut trouver dans les germes de blé, la levure de bière, les céréales complètes, le jaune d'œuf, etc. Et puis la vitamine E aussi, qui est essentielle pour la vivacité d'esprit, qui est une vitamine qui est liposoluble et qui est hyper riche en antioxydants. Et je vous en ai parlé, les antioxydants, dans mon podcast sur le stress oxydatif et tout ça, qui vont du coup permettre justement de rétablir un petit peu l'équilibre. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, mais c'est juste pour vous montrer à quel point l'alimentation a un rôle hyper important sur le cerveau. Et que c'est pas juste voilà, un facteur esthétique et qu'on ne mange pas uniquement pour avoir une belle shape, mais que on mange vraiment pour avoir une bonne santé et notamment aussi au niveau du cerveau. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, de partager le podcast, de le liker, de mettre un commentaire, de le noter aussi 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça m'aide à faire connaître le podcast et du coup à partager un petit peu tout ça. J'espère que on pourra échanger sur le sujet. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain podcast.